Bonjour à tous. Nous avons une formidable devise de l'année 2017 qui est affichée ici en grand, qui nous parle de la sagesse d'en haut, qui est le cœur du message de Jacques que nous avons en cœur à étudier pendant toute l'année depuis septembre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un seul mot qui est écrit ici en petit. La sagesse d'en haut, je saute à la dernière ligne, la sagesse d'en haut est sans partialité. Alors pour qu'on le voit mieux, le transparent suivant le reprend. La sagesse d'en haut ne fait pas de différence entre les gens. C'est la même chose, c'est l'idée de la partialité. Alors la sagesse d'en haut, pour que ce ne soit pas quelque chose d'abstrait ce matin, je vais tout de suite lui substituer l'expression suivante, ce que ça signifie pour nous concrètement, c'est la foi, ou plutôt l'expression de notre foi mise en pratique, elle ne fait pas de différence entre les gens, elle n'est pas partiale. Elle ne fait pas de favoritisme. Et je pourrais aussi rajouter, puisqu'il s'agit de la sagesse d'en haut, c'est que la vie de l'esprit ou le fruit de l'esprit en nous ne fait pas de différence entre les gens, ne fait pas de favoritisme. Voilà le sujet. Et nous allons l'illustrer avec ce passage de Jacques, chapitre 2. Alors le passage est plus long, mais nous n'allons lire que les premiers versets ensemble, et on fera référence à la suite tout à l'heure. On va lire les quatre premiers versets. Mes frères et sœurs, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Imaginons que dans notre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi ici, en bonne place », et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout », ou bien « Assieds-toi en bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Jusque-là, la lecture de la parole. Et si vous avez le quad neuf sous les yeux, j'ai mis trois points. Et le premier, c'est le problème. Quel est le problème, non pas à la lecture, mais qu'est-ce que ça représente pour nous? Et je l'ai exprimé sous cette façon, c'est que nous sommes, alors je nous inclus tous, mais en tout cas moi en premier, nous sommes naturellement enclins à faire des jugements hâtifs et biaisés, basés sur l'apparence des personnes. Et on le voit ici dans les versets 1 et 4. Donc il ne faut avoir aucune partialité envers les personnes. C'est le thème de tout le chapitre 2 de Jacques. Et l'explication est la suivante. Donc je vous lis encore une autre traduction. La vieille traduction seconde nous dit « Ne mêlez pas votre foi à des considérations de personnes. » Donc ne favorisez pas une personne par rapport à une autre. Et au verset 4... À la suite de l'exemple que Jacques a donné, il va reprendre, il dit « N'est-ce pas cela, faire des différences entre vous, juger selon de faux critères ? Nous le faisons lorsque nous montrons plus de respect à l'homme qui a les beaux habits. » Et au verset 6, que nous n'avons pas lu, ça signifie aussi, en faisant cela, nous méprisons le pauvre ou l'autre personne. Donc quand on favorise quelqu'un, on défavorise, on juge quelqu'un d'autre également. Ça ne va pas que dans un sens. Voilà. Donc, une définition du favoritisme, c'est faire des différences, juger selon des faux critères. Et il y a une expression qui m'est revenue, que nous connaissons bien, qui dit à peu près cela, je pense. C'est l'expression « deux poids, deux mesures ». Ou « faire ou avoir deux poids, deux mesures ». Et quand on regarde, et je pense que c'est ce que vous avez en tête, ça veut dire être inégal, injuste, juger avec partialité. C'est une locution qui veut dire que l'on juge deux actes semblables de manière différente, selon des critères arbitraires, par exemple selon les personnes, les circonstances, les intérêts. Et cette expression, vous êtes un internaute non averti, vous avez du mal à trouver d'où elle vient. Quand j'ai cherché, ou du moins quand j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire, j'ai aussi trouvé l'origine de cette expression, comment c'est devenu une citation. Et ça date d'à peu près le milieu du XVIIIe siècle, l'époque de Voltaire, et c'est aussi l'Ancien Régime. C'est à une période où on avait 2000 unités de mesure. Et ce qui pose un problème, et notamment l'unité de mesure, le Charlemagne, était toujours d'actualité. Le Charlemagne, c'était la taille de Charlemagne qui était utilisée comme unité de mesure de son époque. Et au bout de 1000 ans, vous pouvez bien penser que la précision avec laquelle on avait sa taille, il pouvait y avoir quelques nuances. Et donc, pour corriger cela, on a mis à cette époque en place une unité étalon qui soit plus juste que ces nombreuses unités qu'on avait et qui donnaient donc lieu à toutes sortes de tricheries, d'abus dans tous les sens, dans les échanges. Et c'est là dont vient cette expression « deux poids, deux mesures ». Et c'est assez amusant de voir que les gens se posent la question, ok, ça c'est l'explication, mais elle est quand même bizarre, elle est étrange, cette expression. Et c'est là qu'on voit que la culture biblique est vraiment perdue chez nos contemporains, parce qu'il n'y a pas un endroit où la référence biblique est donnée. Donc c'est une expression qui date d'avant la Révolution, mais on a perdu d'où elle venait réellement. Alors on va lire ça. Tel que c'est présenté dans la Bible. Donc c'est Deutéronome 25, les versets 13 à 14, nous les donne. Voilà une loi. Dans ta sacoche, tu n'auras pas deux poids différents, un grand et un petit. Dans ta maison, tu n'auras pas deux boisseaux différents. Alors ça, c'est l'épha, c'est l'unité de mesure plutôt du grain. Vous vous souvenez, dans les offrandes qui ont été faites, elles sont faites avec des mesures qu'est l'épha. Donc, ça servait à avoir une mesure de contenu. Pour nous, on prend plutôt le mètre linéaire quand on parle de mesure, mais c'est la même idée. Tu n'en auras pas deux, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un boisseau, une mesure exacte et juste, afin d'avoir de longs jours sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Car tout homme qui agit de manière malhonnête est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Vous voyez la gravité de la chose. Pour Dieu, c'est une abomination de ne pas utiliser un vrai poids, une vraie mesure. Et c'est aussi répété, encore en Proverbe 20, verset 10, tel quel, deux poids, deux mesures, le Seigneur en a horreur. Et donc ces deux passages de l'Ancien Testament nous donnent une bonne idée du sens de ce mot partial, mais aussi de l'extrême gravité de cette chose aux yeux de Dieu. Et quand on lit le Nouveau Testament, quand Jésus parle sur le sermon sur la montagne, il commencera par dire « on vous a dit », il cite les commandements les plus difficiles, il parle du meurtre et de l'adultère, mais il a dit « les choses commencent dans notre pensée, dans notre regard que nous posons sur les autres ». Donc c'est pour cela que c'est tellement grave. Et Jacques le dit aussi dans les versets 8 et 9, si vous accomplissez la loi du royaume, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous montrez de la partialité envers les personnes, vous commettez un péché, et cette loi vous convainc de transgression. Et après, il va aussi citer ces deux commandements, tu ne commettras point d'adultère, et il met ça au même niveau. Donc le favoritisme, c'est quelque chose de sérieux. Et puisque je vous affiche ces versets, notez comment Jacques appelle le corollaire du plus grand commandement qui résume toute la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit que c'est la loi du royaume, c'est la loi royale. Donc être partial, c'est transgresser cette loi, la loi de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, pour encore un peu mieux comprendre cette idée de la partialité, ce jugement sur l'apparence, je voudrais, j'allais dire, ne fermez pas les yeux ou fermez-les si vous voulez, que nous repensions à cette petite histoire que Jacques nous a racontée sur les deux personnes qui rentrent dans la salle. Vous voyez, la porte s'ouvre. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Dans votre tête, vous l'imaginez, et je vous pose une question. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête? La réponse de Jacques, vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites « Assieds-toi là ». Et ma question, c'est celle-ci. Combien de temps s'est passé entre le moment où notre regard s'est posé sur la scène, sur les personnes, et ensuite sur une d'entre elles, et le moment où on a pris la décision, on a fait le jugement? Combien de temps ça nous prend pour arriver à une telle conclusion? Alors j'ai écouté un message sur ce passage de Robin Craddock qui a émis l'idée que le favoritisme, c'était quelque chose de câblé dans notre cerveau, tellement notre jugement est rapide. Alors ça m'intéresse, les connexions neuronales, et je suis parti de cette idée. Notre cerveau est équipé de 1000 milliards de neurones, de petits processeurs élémentaires, qui représentent une puissance de calcul absolument formidable, que nous essayons d'imiter avec nos calculateurs modernes. Et dans le domaine donc du traitement d'images et de l'analyse, je reviens au cerveau, excusez-moi. Pour le cerveau, analyser une scène visuelle complexe et prendre une décision, ça nous prend à peu près 200 millisecondes quand on est entraîné. D'accord ? Alors, pour la question qui nous concerne, je rajoute généreusement, et on ne va pas compter en millisecondes, on va compter en secondes, je donne une seconde. Donc, tout pourrait se passer en moins d'une seconde. Notre regard se pose sur la scène et ensuite la personne, puisqu'il y en a deux dans ce cas, parfois il n'y en a qu'une, et instantanément, nous émettons un jugement basé sur son apparence, jugement souvent faux ou injuste. Et en fait, quand on regarde le mot grec qui est utilisé pour « partial » dans le verset 1, il veut en fait dire, il est formé de deux mots grecs, Et on pense que c'est dans le Nouveau Testament la première fois ou l'époque du Nouveau Testament, que la première fois qu'on a composé ce mot avec les deux mots suivants, recevoir la face. Donc il y a bien le mot visage, face, dans ce mot qu'on a traduit par partial ou favoritisme. Et donc ça signifie évaluer une personne à partir de son apparence, ce que nous faisons très rapidement. Et la partie grave, c'est qu'après, nous utilisons cette analyse rapide, nous traitons cette personne en conséquence de notre analyse rapide. Voilà, donc c'est un processus qui est ici dénoncé. On part d'une pensée, on émet un jugement, et le pire, c'est qu'on traite la personne basée sur cette première vue, sur ce cliché. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le temps et toujours, mais ça peut nous arriver. Ça ne nous arrive jamais, moi ça m'arrive, ça m'est arrivé, et je vous l'ai déjà raconté ici, mais je vais vous re-raconter une anecdote parce que ça m'a marqué. Et malheureusement, depuis, le Seigneur m'a repris sur d'autres choses encore. C'est arrivé il y a quelques années déjà, un dimanche soir, donc à la pharmacie de garde à Haguenau. Je suis entré dans cette pharmacie, je me suis mis dans la queue unique d'une dizaine de personnes, parce que, en fait, le pharmacien était seul, puisque c'était le dimanche. Et là, en tournant ma tête vers la gauche, c'est une assez grande pharmacie, mon regard a trouvé une personne qui ne faisait pas la queue, mais qui nous regardait. Et moi, je l'ai instantanément jugé. J'ai fait exactement ce qui s'est passé là dans cette scène. Et j'ai tout de suite redétourné le regard dans ma file. Parce que cet homme n'était pas un client normal. Déjà, il n'était pas dans la file. Comme il était habillé, comme il nous regardait, il voulait sûrement quelque chose. Et j'étais sur la défensive parce que je craignais, c'est peut-être moi qui va demander quelque chose. Bref, par rapport à Jacques, dans mon cœur, je l'ai traité comme le pauvre. Et j'allais être très vite repris. Parce que quelques minutes plus tard, le pharmacien, qui lui aussi semblait tendu et excité, il lance un appel à tous les clients qui étaient là dans la file, et il explique que cette personne qui est là à côté, elle avait besoin d'un produit, mais qui lui-même était vraiment désolé, mais il n'a pas ce produit dans sa pharmacie. Et il demandait donc à nous, clients, si nous, on n'avait pas ça, peut-être chez nous, et si on pouvait aider cette personne. Et donc les gens étaient désolés. Et après, il y avait une dame avec une fille dans la poussette. Elle a dit, moi, j'ai ça à la maison. Tout à l'heure, quand j'aurai payé, cette personne pourra venir avec moi et puis je lui donnerai cet objet ou ce produit. Vous voyez, moi j'étais stupéfié et pendant un instant j'ai cru que j'étais au ciel. Tout le monde avait le bon regard sur cette personne, il n'y avait que moi et j'étais d'autant plus repris. Je ne savais plus où me mettre. Et une fois que cet homme, avec la maman et l'enfant, sont sortis, le pharmacien a donné l'explication qui m'a fait revenir sur terre. En fait, le pharmacien était fier parce qu'il venait d'avoir Sébastien Loeb dans sa pharmacie, que je n'avais bien sûr pas reconnu. Donc moi, le Seigneur m'a repris à ce sujet, sur mon cœur mauvais. Et il a dû le faire de nombreuses fois. Depuis, peut-être, il devra encore le faire. Alors, je ne sais pas si où commencer pour vous, mais même le prophète de Dieu a cette tendance à juger sur l'apparence. Et cette semaine, mercredi soir, Pinault nous a rappelé l'exemple du prophète Samuel, lorsqu'il a été envoyé par Dieu pour choisir le nouveau roi, Dieu lui a indiqué la famille où il devait aller, et il avait l'Esprit de Dieu avec lui pour oindre ce roi. Et lui aussi, parce que nous connaissons bien ce passage, il a fait un jugement hâtif basé sur l'apparence. Lorsque Samuel aperçut Éliab, d'accord ? Lorsqu'il a vu Éliab, c'est le fils aîné de la famille, il se dit en lui-même, « Sûrement, c'est le Messie, c'est lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais il s'est trompé. Le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Donc nous avons ici, même le prophète, dès qu'il a vu, il a eu ce jugement. Mais dans la réponse du Seigneur, on a beaucoup d'éléments. C'est que Dieu, lui, ne regarde pas de cette manière, il regarde au cœur. On a aussi là l'élément de réponse de ce que Dieu attend de nous, c'est que nous fassions comme Dieu, que nous ne jugions pas notre prochain sur l'apparence, d'ailleurs ni sur rien d'autre non plus, mais que nous l'aimions de notre cœur pour ce qu'elle est. Alors ça, c'est la situation. Et en deuxièmement, j'ai posé, est-ce que c'est grave ? Oui, parce que le regard que nous portons sur notre prochain, il fait du mal s'il est partial. Et l'exemple de Jacques, qui montre un cas de favoritisme envers un riche, ça signifie mépriser celui qui est pauvre. Au verset 6, il nous est dit « Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. » Mais en même temps, ce n'est pas non plus aimer le riche. D'accord ? Donc le Seigneur nous dit « C'est mal de favoriser quelqu'un, mais donc nous on n'est pas bien. » Mais en fait, on ne fait rien de bien pour ce riche non plus. Parce que ce que Dieu nous demande pour chaque personne, c'est de l'aimer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le riche est autant mon prochain que le pauvre. Je parle toujours par rapport à l'histoire que nous venons de lire, que Jacques nous a donnée. Et donc, je dois le traiter de cette manière. Et si je le favorise, si je le mets à l'avant, je ne l'aide pas. Je ne lui permets pas d'avoir une relation normale avec les autres. Et donc maintenant, si je généralise un peu, ce n'est pas que la richesse, l'argent, qui peut nous impressionner. Il y a aussi, chez une personne, la richesse de son intelligence, la richesse artistique, toutes les valeurs humaines, le caractère agréable, le caractère fort. On a toutes sortes d'impressions visuelles que nous captons avec le regard immédiat, mais qui ne tiennent pas compte de la réalité intérieure de la personne. Jude dénonce. Il dit, ces gens qui tiennent des propos orgueilleux et flattent les gens par intérêt. Jude le dénonce, mais c'est vrai que c'est tellement commun que ça nous semble presque naturel ou normal aujourd'hui. En fait, il n'est pas question, enfin, favoriser, c'est souvent s'intéresser à quelqu'un par motif d'intérêt. Et du coup, je ne l'aime pas pour lui-même, mais parce que ça m'apporte quelque chose. il peut m'aider. Il peut m'aider à me réaliser moi-même. Mais Jacques nous dit, ou du moins c'est Dieu qui nous dit, que ça c'est contraire à l'amour. Favoriser quelqu'un sous prétexte qu'il est grand et riche, c'est de l'intérêt et non de l'amour. L'amour ne cherche pas à prendre ou à se nourrir de l'autre. Et quand on pense justement aux célébrités, aux stars de ce monde, qui sont tellement adulées, mises en avant, peut-être elles sont seules, parce que la réalité de la relation n'est pas là. Et si moi, j'en rajoute, je contribue à isoler cette personne. Bref, discriminer l'autre dans un sens ou dans un autre, quel que soit le sens, ce n'est pas l'aimer, c'est le contraire de l'amour. Et maintenant, je vais encore vous le dire avec... Non, je ne vais pas vous le dire, c'est Mère Teresa qui va nous le dire. Il y a une citation qui dit que si vous jugez les gens, vous n'avez pas le temps de les aimer. Et c'est vrai. On peut comprendre qu'il n'est pas possible de faire les deux. Jugez-les ou aimez-les. Et si on veut vivre à la suite de Jésus, il n'y a qu'une option possible. Et c'est la deuxième. Donc, si je reviens à mon câblage dans le cerveau, dont nous avons parlé tout à l'heure, dans mon jargon, il faudrait faire ce qu'on appelle un réentraînement, un réapprentissage, pour que les connexions se fassent autrement, et pour que lorsque nous regardions l'autre, que le chemin vers l'interprétation soit différent. Je dirais, il faut convertir notre regard afin qu'il s'attache à la personne sans a priori et sans jugement, pour que nous puissions voir son caractère unique, quelle que soit son origine, la voir là où elle est et non là où nous voudrions qu'elle soit. Et ça, ce sont les gestes de la reconnaissance de l'identité personnelle. Nous voulons nous porter mutuellement des regards personnels sans jugement, des regards d'amour qui relèvent et qui reconnaissent la personne telle qu'elle est, pour qui elle est. Comment c'est possible? Comment pouvons-nous y arriver? La solution, c'est de réaliser que Dieu, lui, est impartial. Dieu ne fait pas de favoritisme et il m'aime de manière inconditionnelle. C'est écrit et c'est démontré partout dans la Bible. Je ne prendrai donc qu'un seul verset aujourd'hui, c'est Jean chapitre 8. Jésus affirme, explique, « Je suis la lumière du monde ». Mais les pharisiens refusent sa parole et Jésus révèle leur cœur. « Vous jugez de façon purement humaine. » Et c'est là un grand fondement de notre partialité. Nous jugeons de façon purement humaine. Alors que Dieu, il nous demande de ne pas juger du tout notre prochain, au moins dans le sens où on en parle ce matin. Et Jésus nous le démontre par sa vie. Partout dans l'Évangile, Jésus n'a pas jugé comme on vient de le dire ce matin. Et c'est parce qu'ils ont ainsi jugé Jésus, ben, ils n'ont pas pu le reconnaître. Ils n'ont pas pu voir qu'il est la lumière du monde. Lorsque nous regardons l'autre d'une manière qui n'est pas juste, ben après, on ne peut pas aller plus loin. On le met dans une case, et nous aussi. Et voyez ce que Jésus dit. Il dit, « Moi, je ne juge personne. » Et c'est comme ça que nous connaissons Jésus. Jésus a dit, « Moi, je ne juge personne. » Dieu est impartial par rapport aux personnes. Et Jésus nous l'a démontré. Et quand Jésus nous regarde, il ne nous regarde jamais de haut. Il ne nous méprise jamais. Et son regard, c'est ce regard qui nous transforme, qui nous voit comme être humain avec une valeur inestimable. Et c'est pour cela que nous non plus, nous ne pouvons pas juger notre frère, et surtout pas sur l'apparence. C'est donc essentiel de comprendre et de recevoir, de croire que Dieu est impartial dans toutes ses décisions, tous ses choix, parce que c'est la base pour lui faire confiance, pour entendre sa voix et accueillir son regard d'amour sur nous. Écoutons encore quelques paroles d'Ambroise, l'évêque de Milan au IVe siècle et docteur de l'Église, qui indirectement nous parle du regard que le Seigneur Jésus porte sur nous. Il dit ceci, « On lit que le berger de l'Évangile a porté la brebis fatiguée, non qu'il l'a rejetée. Le Seigneur Jésus a fait preuve de compassion envers nous. Son désir était de nous appeler à lui et pas de nous faire fuir en nous effrayant. La douceur marque sa venue. Sa venue est marquée par l'humilité. Il a dit d'ailleurs, « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous réconforterai. » Ainsi donc, le Seigneur Jésus réconforte, il n'exclut pas, il ne rejette pas. Et c'est à bon droit qu'il a choisi pour disciples des hommes qui, en fidèles interprètes de la volonté du Seigneur, rassembleraient le peuple de Dieu au lieu de le repousser. Donc Ambroise nous invite à aller vers les autres comme le Seigneur vient vers nous. Le Seigneur a choisi ses disciples, il nous a choisis pas par favoritisme, c'est par amour entier. Et nous sommes heureux qu'il ait fait ce choix. Donc la réponse devant ce qui nous embête, la possibilité de bien regarder l'autre, c'est de réaliser, de proclamer mon identité en Christ. Et je vais la présenter sous forme d'une expression qui est pour moi devenue une boutade, que je l'ai déjà dite ici aussi, parce que quand je l'ai trouvée, je l'ai beaucoup aimée. Je sais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais moi, je suis son favori. Et ce matin, je vous le présente sous forme visuelle. Je vous laisse réagir, vous avez moins d'une seconde pour vous faire votre idée. Voyez, Jésus t'aime, mais moi, je suis son favori. A priori, ça semble être le contraire de tout ce que j'essaye de vous dire depuis ce matin, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout, parce qu'en fait, on n'est plus du tout dans le même domaine. Quand je dis « je suis son favori », je ne suis pas plus grand que qui que ce soit d'entre nous, parce que chacun d'entre nous peut dire cela et doit dire cela. C'est même pour moi la réponse, le secret. En fait, en disant cela, je déclare, je proclame qui je suis en Christ. Je suis son favori parce qu'il m'a choisi dans sa grâce, parce qu'il m'aime d'un amour inconditionnel et infini, et ceci sans aucun mérite de ma part. Le sang de Jésus a été versé pour payer le prix de mes péchés. Et quand je dis que je suis son préféré, c'est pour que chacun d'entre nous puisse le dire. Le message que je lis là-dessus, le messager que je dois être pour l'autre, c'est de dire « Dieu n'a pas de préféré, il t'aime entièrement, totalement. » Dieu t'aime totalement, il n'a pas de préféré. Je n'ai pas besoin de favoriser qui que ce soit. Je suis déjà le favori de Dieu par ce que je viens de dire. Et vous aussi, chacun d'entre vous. Dieu prend soin de moi, de mon avenir, de mon travail, de mes projets. J'ai ici écrit de la planète Terre, et je rajoute, bien sûr que je dois faire ma part dans toutes ces choses. Jésus prend soin de ma santé, et il a promis de le faire pour ma famille, mes enfants, mon épouse, mes amis. Et du coup, je n'ai pas à regarder l'autre avec un a priori. Parce que quelque part, c'est comme si je prenais la place de Dieu en disant que celui-là, il est comme ça, comme ça, comme ça, et en le traitant de cette manière. On ne regarde plus les autres de la même manière. Et pour que nous puissions tous le dire ensemble, justement, et le verset 4 a déjà été lu tout à l'heure, je vous propose de lire ensemble le psaume 23 en disant « Je suis le favori du Seigneur ». Quand on dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Je ne tire pas ma valeur du regard des autres et je ne laisse pas le regard des autres sur moi dicter ma valeur. Ce que je suis, ce que je vaux, me vient de Dieu, de son regard sur moi. C'est le regard du bon berger sur sa brebis. Et c'est de cette position que je peux dire « je ne manque de rien ». Une autre traduction dit « j'ai tout ce qu'il me faut ». Et ce présent va aussi pour demain. Je peux aussi dire « je ne manquerai de rien » parce qu'il est mon berger. Il me conduit, il me fait reposer, il restaure mon âme. Que peuvent me faire des hommes? Cette question ne se pose même pas pour David, parce qu'il voit ce que Dieu fait. Il dresse une table en face de mes adversaires. La maison du Seigneur, je n'ai pas besoin de convoiter la maison de mon prochain. C'est là que je veux être, c'est là que je suis bien. Alors, comme confession de fin de ce message, je lis le psaume 23 et on le dit ensemble, chacun à la première personne. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen.